RFI. Grand reportage.
Grand reportage. Je vous propose aujourd'hui la suite de notre enquête en deux volets sur les années Abré au Tchad, à l'occasion de l'ouverture à Dakar du procès d'Hissène Abré. L'événement est historique, car pour la première fois, un ancien dirigeant d'un État africain est jugé en Afrique, dans un autre État, pour des violations des droits de l'homme commises quand il était au pouvoir. Le système Abré, parole de victime, c'est un reportage de Laurent Coron.
Josué Doumassem est l'une des victimes du régime d'Hissène Abré, mais il a aussi un don, il s'est dessiné. Pendant les investigations de la commission d'enquête, c'est lui qui a représenté sur le papier les types de tortures pratiquées à partir de son expérience et des souvenirs des autres pour que la mémoire ne se perde pas.
Sublice de baguette là, j'essaie de vous faire rapidement le schéma. Il commence par attacher les brindilles là à la tête. Le tortionnaire pose la brindille là, côté droit, au niveau de tempe, l'autre au côté gauche. Les bouts sont bien joints et il l'attache avec une corde de chaque côté. Et il commence par taper le bout de cette brindille par devant. Il tape pendant 5 à 10 minutes, il arrête. Quand il détache pour libérer la victime, dès qu'il enlève, c'est fini. La victime commence à pleurer, à crier, comme si c'est un fou. Et ça fait mal. Pendant toute votre vie, vous allez subir cette douleur-là.
Robert Hissène Gambier, le doyen des victimes, a subi la torture des baguettes. Il en vit encore les séquelles 30 ans plus tard.
Actuellement, ma tête, là, j'entends toujours des bruits comme des grillons. Crrr, crrr. Nuit et jour, des années, je marche comme ça. Je dors avec des bruits. Je me lève avec des bruits. Toujours. Le docteur m'avait dit que les nerfs là sont abîmés.
D'autres tortures ont laissé des traces qui restent visibles, comme celle de l'Arbatachar. Le syndicaliste Younous Mahadjir, arrêté dans l'affaire dite des tracts, en a été victime.
La torture, c'était le soir, vers 18h, qu'ils m'ont sorti de ma cellule et ils m'ont amené pour m'attacher à l'Arbatachar. L'arbatachar, c'est qu'on attache la personne les deux mains derrière et puis on les lie aux deux pieds par derrière et puis on vous met le buste un peu bombé et ils m'ont fait ingurgiter de l'eau jusqu'à ce que je puisse perdre la connaissance. Après avoir perdu la connaissance, ils me laissent et me demandent qui était mon complice et lorsque je ne réponds pas bien, ils me reprennent l'ingurgitation de l'eau. Donc ils l'ont fait, je pense, bien 3 fois.
Pendant ces années, la torture a été utilisée de manière systématique pour obtenir du renseignement. Les conditions de détention ont en elles-mêmes été une forme de torture des prisonniers. Jacqueline Moudaina, coordonnatrice de l'équipe d'avocats des victimes.
Les conditions de détention étaient des conditions abominables. Les gens tombaient malades dans les geôles, ils n'avaient pas accès aux soins médicaux. C'était vraiment abominable, toutes les conditions de détention. Pendant des années, c'est comme ça qu'il y a eu des milliers de morts au niveau de la DDS. On entassait des personnes comme des animaux dans des cellules qui ne pouvaient pas les contenir. Pour une cellule qui pouvait contenir, par exemple, 20 personnes, vous en trouvez une centaine.
Est-ce que les familles pouvaient avoir de leurs nouvelles?
Aucune famille n'avait de nouvelles. Il y avait des gens qui ne savaient même pas, des personnes qui étaient arrêtées depuis le sud, depuis le nord, amenées à N'Djamena. Les familles ne savaient pas où est-ce qu'elles étaient. C'est seulement à la libération de certains prisonniers que certaines familles savaient que les leurs étaient là, dans les geôles de la DDS, et encore. Parce que celui qui était libéré ne devait pas parler, ne devait pas dire ce qu'il avait vu là-bas, ou ce qu'il a entendu, ou qui il a vu là-bas.
Dans les cellules, l'horreur. Parfois la cohabitation avec les corps des détenus qui ont succombé. Niama Soumnar se souvient.
Bon, quelqu'un est mort, on n'appelle pas. Parce que si vous appelez, c'est toujours de la punition. Donc comme il faisait très chaud, chacun cherche à toucher ou bien se coucher sur le corps pour avoir un peu de fraîcheur. On se couche sur le cadavre puisque le corps est frais.
Le cadavre reste là, le cadavre habite avec vous jusqu'à son pourrissement.
2-3 jours, ça commence à pourrir. Ça commence à sentir mauvais. Comme c'est déjà pourri, on ne vient plus dessus. On ne vient plus sur le cadavre. Au bout d'une semaine, c'est en ce moment-là, si eux-mêmes sentent l'odeur, ils viennent. S'ils ne sentent pas l'odeur, bon, il faut frapper à la porte. Et s'ils arrivent, l'odeur même du cadavre va leur prouver qu'il y a un cadavre. Et c'est en ce moment-là qu'ils ouvrent. Après, qu'est-ce qu'ils font de ça ? Nous, nous sommes dans la cellule, on ne voit pas.
Le système Abré a très largement pratiqué la torture. Il a également jeté les populations en prison sans discernement. Alifa Kourouma-Doungous a été arrêté et torturé simplement parce qu'il avait critiqué le président.
Comment trouver à la maison ? C'est comme ça que c'est toi qui es Alifa. J'ai dit oui, c'est moi les Alifa. On m'a dit bon, on va aller. On va aller où ? On va aller. On m'a giflé dans la maison. Hein. On m'a giflé d'abord, on est parti à la DDS. Lorsque nous sommes partis, on m'a dit que toi tu as insulté ici après. Mais je n'ai rien insulté, Sénabré. Je n'ai rien fait. Moi, je suis un simple mécanicien comme ça. Je ne suis pas un politicien.
Jean Noyoma a lui aussi été arrêté et torturé. Il avait prêté sa voiture à un ami qui travaillait pour l'ambassade de Libye.
L'ex-chauffeur de mon directeur de service, avec qui on se connaissait bien, qui, curieusement, s'est retrouvé à l'ambassade de Libye au Tchad, comme chauffeur aussi. Et il m'avait demandé un service, prêter mon véhicule pour transporter une cuisinière. Et c'est cela qu'ils ont dit que je suis en contact avec l'ambassade de Libye au Tchad. Tout ce que j'ai fait, c'est prêter un véhicule à un ami qui m'a demandé service. Et c'est cela qui a coûté mon arrestation. On m'a reproché d'être un agent libyen par ce contact-là.
Face à ceux qu'il considère comme ses ennemis, le système Abré recourt aussi parfois aux exécutions sommaires. Comme à Faya Larjo, en 83. La ville change de main en quelques semaines. Le général Ramadan Barkaï, qui était à l'époque le chef du deuxième bureau du Gunt, se souvient de l'entrée des forces d'Abré dans la ville, fin juillet.
Nous avons pris Faya autour du 22-23 juin. Un mois plus tard, c'est Hissène qui a lancé l'offensive. Brusquement, et il y a eu le combat tout juste à la porte de Faya, à l'entrée de Faya. En moins de 30-40 minutes, Faya a été repris par les Hissènes et nous, on était ressortis vers l'est. C'était très tôt le matin, parce que la majorité des cadres étaient restés campés chez eux. Les gens de Faya ont dit, voilà, les gens de Gont, ils étaient là, ils sont campés ici, ils sont dans ces chambres, ils sont dans ces maisons. C'est comme ça qu'ils les ont montrés un à un dans les maisons. Et finalement, après notre sortie, ils étaient tous tués par les éléments du Sénat.
Les prisonniers de guerre du Gunt sont par ailleurs transférés à N'Djamena pour être mis en détention. 150 d'entre eux sont exécutés en août 83 lors du massacre d'Ambing. Un massacre auquel Bichara Djibrin Armat a miraculeusement survécu.
Nous, les 150 prisonniers, on nous a transportés dans un grand camion. Il y avait des militaires qui nous escortaient. On nous a emmenés à Ambing. Là, on nous a fait allonger par terre. Ils nous ont entourés. Et puis ils ont commencé à tirer sur nous. Parmi les 150, je suis le seul à être rescapé. Parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Il y avait des cadavres partout autour de moi. Je me suis levé doucement et je suis parti.
Arrestation arbitraire, torture, exécution sommaire. Quel a été le rôle d'Hissène Abré dans ce système qui a dirigé le pays jusqu'en 90? Pour Mahamat Nouri, un ancien compagnon de route de Abré, l'ancien président a surtout eu le tort de laisser faire, de ne pas sanctionner ceux qui commettaient les excès.
Hissène n'est pas forcément directement responsable de tout ce qui s'est fait, non, il n'est pas directement responsable, mais il y a des abus un peu partout. Ces abus-là, il fallait réprimer. Moi, je dirais qu'une certaine chose que je reproche à Hissène, c'est que c'est un chef très autoritaire, mais parfois, il laisse faire certaines choses. Ce qui s'est passé, par exemple, dans le Sud, il a fait la complaisance avec certaines personnes. Les Idriss Déby, les Ibrahim Itno. Et pour le complaire qu'il a fait ça. Parce que c'est des gens qui représentent une grande communauté importante, des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, etc., tout ça. Quand vous recevez des informations, il faut punir les gens. C'est ça qui a manqué.
Jacqueline Moudaina, la coordonnatrice des avocats des victimes, estime au contraire qu'Hissène Abré a une responsabilité directe dans les exactions qui ont été commises.
Hissène Habré, il est le seul responsable de tout ce qui s'est passé, parce que rien ne pouvait se faire sans ses instructions. Tout a été fait sur instruction de Hissène Habré, c'est le seul responsable. Et il a eu des gens qui n'ont pas su lui dire non, des gens qui ont accepté de faire ce sale boulot. Personne n'a démissionné, aucune autorité de la DDS n'a démissionné. Ça veut dire que tout le monde a accepté de faire le sale boulot, mais le seul responsable, c'est M. Hissène Habré qui donnait des instructions, qui suivait tout et qui ordonnait même certaines détentions.
Et vous avez les preuves de ça ?
Oui, nous avons les preuves. Nous avons les preuves, c'est par les archives de la DDS que nous avons eu à trouver au siège de la DDS.
L'analyse d'une partie des archives de la police politique de Habré, la DDS, a permis d'identifier 1265 communications directes transmises à Hissène Habré. Des survivants des prisons disent également avoir vu ou entendu l'ancien président en lien avec leur interrogatoire. Al-Rali Mahamad Bichara a ainsi été sorti de sa cellule pour rencontrer Hissène Habré. Le chef de l'État, dit-il, ne pouvait pas ignorer qu'il avait été torturé.
J'étais nu, mais au bout de 3 jours, ils m'ont ramené mes habits. Ils m'ont menotté par derrière et ont couvert mon visage. On m'a fait monter dans un véhicule. Je ne sais pas à quelle heure. Et quand ils ont découvert mon visage, j'étais devant Hissène Habré. On m'a laissé seul avec lui. Il était sur son fauteuil, il faisait tourner son fauteuil. Il avait la cigarette en main et il fumait. La fumée arrivait sur mon visage et il feuilletait ses papiers. Il me regardait, mais il ne parlait pas. C'est après qu'il m'a dit « Je vais vous poser 3 questions ». Il a dit « Qui est-ce qui vous a envoyé ? On vous a envoyé pour faire quoi ? Et qu'est-ce qu'on vous a donné ?» Hissène savait qu'on m'avait torturé. J'étais habillé, mais mes blessures étaient visibles. Et puis quand on m'avait torturé avec l'eau et avec le courant électrique, ils avaient pris des notes. Et c'est avec ces papiers qu'on m'a amené devant lui. Il était en train de les lire. Il m'a posé d'autres questions. Il a appelé ses gardes du corps qui sont venus, ont recouvert mon visage et m'ont ramené.
Galine Gotegata a été conseiller spécial de Hissène Habré. Il a fait partie d'un petit groupe qui dénonçait les dérives du régime dans des tracts clandestins. Il a été arrêté. Lors d'un de ses interrogatoires, il se dit certain d'avoir entendu au Talkiwoki la voix du chef de l'État.
Pendant cet interrogatoire avec Mamad Bidon sur les circonstances du décès de la sœur Annie Courage, j'ai écouté la voix de Hissène Habré. Par Talkiwoki, qui disait à Mamad Bidon, il faut insister, il en sait des choses. Je me souviens qu'il partait à l'aéroport pour un voyage à l'étranger. Cet exemple, au moins, me dit qu'Hissène est informé de ce qui se passe dans les prisons.
L'horreur des cellules révèle parfois aussi le courage des hommes et des femmes, comme celui de Rose Lokissim, exécutée, mais dont ses co-détenus et les archives de la DDS ont gardé la mémoire. Reed Brody.
Quand nous avons commencé à interviewer des rescapés, il y en a plusieurs qui nous parlaient d'une femme, Rose Lokissim, une femme courageuse qui se plaignait jamais, mais au contraire, qui aidait les autres prisonniers à supporter leur calvaire. Et qui, cette femme Rose, au prix de risques considérables, notait les noms des prisonniers, des morts, des disparus, pour faire passer cette information aux familles restées à l'extérieur. Mais elle a été dénoncée et les agents de la DDS sont venus la prendre en cellule. Ces interrogateurs, d'ailleurs, notent, et je cite, « Étant donné qu'elle est irrécupérable et continue de porter atteinte à la sécurité de l'État, même en prison, il serait souhaitable que les autorités la pénalisent sévèrement. » Et Rose a été exécutée le jour même. Mais dans ce procès-verbal, on voit que Rose a donné à ses bourreaux rendez-vous avec l'histoire. Elle dit, à la fin du procès-verbal, les agents consignent ses dernières paroles, et je cite, « Elle affirme que, même si elle doit mourir au cachot, elle ne regrette pas, car le Tchad la remerciera et l'histoire parlera d'elle. »
30 ans plus tard, les faits ont donné raison à Rose Lokissim. Les victimes du système Abré peuvent réclamer justice et l'histoire se souvient de ceux qui ont lutté contre l'oubli au péril de leur vie. Hissène Abré, parole de victime, un reportage de Laurent Corot réalisé par Eva Moschinski avec Karine Franck à Dakar.
RFI, les voix du monde.